La première question très, très importante, pourquoi la géographie espagnole a suivi et plus à la géographie française que dans d'autres pays? Il y a une explication qu'une collègue très influente, historienne de la géographie, a montré, et je crois que c'est correct en Espagne, c'est Josefina Gómez Mendoza, qui l'a dit que la méthode française de géographie, la méthode de la géographie rurale, c'était un très bon refuge dans des moments, dans les années 1940 et 1950, où il y avait beaucoup de pression du régime franquiste après la guerre pour faire l'utilisation de l'histoire, bien sûr, et de la géographie comme discipline très liée au discours officiel des nouvelles régimes. Les géographes n'ont pas voulu maintenir en général ce discours. Les expériences avec les géographes allemands ont fini en 1945 et se sont maintenues, mais avec des problèmes de la transférence pour la difficulté de la langue. Et la méthode traditionnelle de la géographie française, de la géographie rurale française, des méthodes vidaliennes, a permis faire des disciplines, a permis reconnaître et analyser les territoires et les espaces ruraux en majorité du pays et maintenir un discours neutral dans un contexte très dur en Espagne comme la post-guerre. Il y avait des différentes familles de géographes. Il y a des géographes plus liés au régime et des géographes qui sont liés à d'autres idées, mais il y avait un consensus pour utiliser la méthode française. Et quel c'est le meilleur refuge pour faire de la science, pour faire de la discipline, en faisant de l'analyse concrète, des études sur le terrain, et en faisant des monographies régionales et des monographies des contrées. Et la méthode française a été parfaite pour faire ça. Et qui ont trouvé surtout des espaces ruraux. Il y avait des espaces ruraux partout en Espagne. Il y a les historiens caractériser la période des années 40 et des années 50 du passé siècle comme une période de ruralisation en Espagne. Après la guerre, il y a la crise des villes, il y a des mauvaises vies dans les villes et il y a beaucoup de personnes qui restent dans des espaces ruraux. Et nous avons par tous les pays des espaces ruraux très peuplés. Il y a beaucoup de thèses, beaucoup des études françaises qui étudient ces moments. Et ces moments, ce sont les vieux complexes paysans, comme a dit Abel Bouillère sur la Galice, ou des camps peuplés en Andalousie, comme d'autres géographes ont étudié, mais c'est un peu exceptionnel, parce que c'est après un grand choc, mais c'est un pays très rural, avec une véritable mode de vie paysan, qui cherche l'autarchie, qui cherche l'autosubsistance. Tous les espaces ruraux, ce sont des espaces agricoles, et il faut comprendre les logiques agricoles plus ou moins complexes dans un pays divers internement. Et il y a une explication agricole, mais avant de l'explication agricole, il y a un autre élément dans la géographie plus classique en Espagne qui est très important. Ce sont les approches de géographie physique et principalement géomorphologique. Il faut comprendre les bases territoriales, les bases physiques pour s'interroger sur les espaces ruraux, sur les espaces agricoles. Et ils deviennent la géographie rurale comme la géographie. En général, tous les géographes espagnols ont été ruralistes jusqu'à les années 1980. Il n'y a presque aucune exception. Il y a des exceptions qu'on peut compter. Mais il y avait l'autre branche à la géographie physique, c'est géomorphologiste dans la plupart. Et c'est le monde paysan, c'est le mode de vie traditionnel qu'on doit étudier, et ce sont les paysages ruraux, c'est un peu l'orthodoxie. Toutes les études qui se sont faites, on coïncide dans cette idée, surtout par Josefina Gómez Mendoza ou pour Rafael Mata de l'Université Autonome de Madrid, et aussi pour Fernando Arroyo. Il y a des différents auteurs qui ont développé cette étude, et même l'espace rural, un espace rural avec peu de mutations, c'est tranquille pour faire la recherche dans des années plus dures. Mais avec une faible, avec beaucoup de pénuries, c'est consolider la géographie. Il y a, nous devons dire qu'en Espagne, il y avait une option pour le régime de Franco de développer surtout l'histoire dans des études de lettres et la géographie. Parce que sont les plus facilement identifiés avec les valeurs qui veulent développer dans l'université dans cette année. Et il n'y avait pas des études de sociologie, des études d'anthropologie, ils sont interdits jusqu'à les années 70. Et même les études d'économie, ils vont faire les dévis en Espagne, les études d'économie rurale et d'économie régionale. Et aux années 60, il n'y avait pas de faculté d'économie. Il y a un suspect en référence des différentes sciences. Pour la géographie, a été intéressant parce qu'il y a un processus d'institutionnalisation intéressant dans les années 50 et dans les années 60 qui change d'une situation avec 4 ou 5 départements ou postes de profs avec des assistants dans tous les pays à une situation proche à l'actuel où il y a 40 universités avec des groupes de géographes et 25-30 avec des cours de géographie. Mais c'est le changement dans cette année. Dans la période franquiste, il y a un changement fondamental qui permet de comprendre les changements aussi dans la recherche rurale. En général, c'est l'année 1959. Il y a deux périodes. Il y a la période de l'autarquie, du premier franquisme. Les pays restent isolés. Les pays restent condamnés pour la communauté internationale pour avoir été liés le régime avec l'Allemagne, avec l'Italie dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais à partir de 1953, la visite d'Eisenhower ouvre les portes, ouvre l'économie espagnole et surtout les réformes économiques d'une nouvelle équipe de gouvernement, les technocrates, qui font l'idée de la modernisation. Il faut changer les pays, il faut faire la modernisation de l'Espagne. L'Espagne reste ou retourne vers une idée de l'Europe. Il y a une idée de croissance rapide pour supérer l'état de sous-développement. C'est un peu l'idée. C'est l'idée de l'idéologie du développement, du desarrollismo en espagnol, qui a été étudié. C'est un changement très fort pour l'Espagne. Ce n'est pas pour tous les pays ibériques, parce qu'au Portugal, c'est un peu différent. Je suis originaire de Galice, le Portugal reste très près, et les Portugais, Oliveira Salazar, l'Estado Novo, a maintenu l'idée paysanne, l'idée rurale, comme idéal, avec les modèles des paysans du Nord, qui a étudié Orlando Ribeiro et d'autres géographes, tous les années 60. Et la croissance des villes, la croissance industrielle a été un peu plus tardive et a devenu dans les années 60 et 70 au Portugal, et c'est différent les contextes contemporains en Espagne. Il y a une décision d'ouvrir les pays et de faire la modernisation. Il y a deux choses. L'idéologie de la modernisation, nous devons devenir européens, nous devons devenir riches, mais la modernisation, c'est urbanisation et industrialisation. Et d'autres choses comme envoyer des migrants pour les autres pays européens et recevoir des touristes pour avoir la balance commerciale, pour avoir une dette extérieure limitée, une balance extérieure limitée. Et c'est la raison pour laquelle en Espagne nous parlons, les historiens parlent et les géographes parlent, qu'il y avait une transition très rapide du monde rural dans une période très limitée d'années. Tout qui est en France a coûté deux générations ou trois générations, en Espagne, c'est développé en 15 ou en 20 années. C'est un problème structurel pour l'Espagne, parce que la croissance urbaine a été peu ordonnée. L'industrialisation a été avec sans un spécifique contrôle, et nous avons passé dans les années 40 ou 50 d'une campagne très peuplée avec des fortes densités rurales à des problèmes d'effondrement, à problèmes d'une campagne vieille, d'un effondrement de la vie paysanne très 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 rapide. Et c'est ça un peu les problèmes en général en Espagne. Et il y avait une autre idéologie qui s'est très très rapidement développée, qui marque un des éléments de l'agriculture espagnole et des questions de recherche au présent, c'est la modernisation. L'idée que nous devons devenir les plus modernes pour devenir les plus compétitifs par les marchés européens. Et nous devons abandonner tout ce qui implique les paysans, la vie paysanne. C'est la question de notre père, de notre grand-père qui n'ont pas vu bien, et pour une agriculture très liée au marché, très capitalisée. Et il marque beaucoup, j'y parlerai après, par exemple, les modèles très intensifs et pas durables des agricultures de Méditerranée. C'est très difficile de changer les paradigmes des productivistes de la Murcie ou de l'Almérie, parce que c'est très lié aux années 60-70, l'idée de la modernisation, de l'européisation et de la compétitivité d'Espagne. Au cadre de la mémoire d'Espagne, les historiens disent qu'il y a un permanent complexe d'échecs historiques. Avec l'Amérique, avec la crise de 1898, avec le monde intellectuel qui est très critique permanentement avec les gouvernements, il y a toutes les questions pour faire, et avec des mouvements arrière des débuts du XXe siècle, qui sont les régénérationnistes, qui veulent moderniser le pays. Il y a une obsession véritable pour l'idée de modernisation du pays pour devenir des Européens normaux. C'est un peu la question. Quel est le résultat? C'est la spécialisation productive. C'est mieux pour faire la modernisation et pousser. Et c'est une progressive séparation un peu de la base territoriale. Parce que quand les villes vont avoir une croissance très forte, il faut avoir beaucoup de produits moins chers pour les marchés. Et dans l'élevage, les produits moins chers qui sont très rapidement développés, c'est l'aviculture et c'est la production de cochons. Sans base territoriale, avec des importations, avec des aides des Américains, avec la soja et avec les maïs. Et il y avait développé ce modèle dans les années 60 et dans les années 70. Il y a un autre élément normal pour les régimes autoritaires, c'est faire des grands travaux publics. Ce sont des exemples des plans Badajoz. Ce sont des nouveaux polygones d'irrigation. Il y avait des nouveaux barrages, des nouveaux parcs d'irrigation un peu partout, comme les grands travaux publics de la période, parce qu'il faut faire dans un pays sèche, la plupart, dans l'intérieur de l'Espagne et dans les aires méditerranéennes, des espaces, des jardins très productifs au plan de l'agriculture dans les paradigmes modernisateurs. Il y a dans les atlas nationaux d'Espagne, dans les atlas ruraux, des indices qui sont utilisés pour la transformation des espaces ruraux, des indices synthétiques, et surtout les changements s'est accéléré dans les années 70 par relation avec les années 60. Il y a des terroirs qui perdent, qui se sont conservés et qui sont dépeuplés de plus en plus, qui n'ont pas une véritable spécialisation agricole, surtout autour de Madrid, dans les Castilles. Il y a un changement très accéléré dans les villes, Madrid, et dans toute la Méditerranée, et dans tous les espaces, de côtes. Et ces changements, comme se traduit dans l'étude géographique des espaces ruraux et des espaces agricoles en Espagne, il n'y a pas de changement. La méthode et le système d'études du modèle vitalien, du modèle français, reste complètement hégémonique pour toutes les études jusqu'à les débuts des années 80. Il n'y a pas changement, il n'y a pas un véritable développement, seulement des livres un peu exceptionnels de la géographie analytique ou de la géographie quantitative, mais c'est pas normal. Et il y avait un facteur très clair. Les géographes se sont liés aux historiens dans des facs de géographie et histoire, avec une licence commune géographie et histoire. Et il n'y a pas une véritable base numérique statistique. Il y a une meilleure base statistique chez les historiens, les démographes historiques, que chez les géographes. Et la méthode française permet de travailler sans faire beaucoup de quantifications. L'arrivée des méthodes de la géographie quantitative en Espagne ou analytique a été très en retard parce qu'il y a de véritables difficultés mathématiques ou statistiques chez les géographes espagnols jusqu'à des périodes très récentes. Il faut attendre des nouveaux méthodes cartographiques pour introduire ces éléments parce que c'est un problème classique. Et on conserve l'idée d'étudier les modes de vie paysanne, même si la question c'était étudier les transformations. Les nouvelles questions en Espagne dans les années 70 ou 80, dans les débuts, ce sont des études rurales, il y a une transformation et c'est faire l'acte de transformation. Ce qui fait Jesús García Fernández à l'école de Valladolid, ce qui fait Ángel Cabo à Salamanca dans la Castille, ce qui font à la Valence Antonio López Gómez et ses disciples, et Vicent Rosselló et Alfredo Morales et des autres qui font les études sur la transformation accélérée de l'agriculture en Espagne, ce qui font les disciples de Manuel de Terán à Madrid, Josefina Gómez Mendoza et Manuel Valenzuela, ce qui font les disciples de Casas Torres et d'Alfredo Foristán à Zaragoza ou à Navarre. C'est la question. Étudier les transformations, mais sans changer de méthode et avec une influence très forte de méthode vidalienne, des méthodes de la géographie classique. C'était très intéressant parce que la collection d'études, de thèses et de recherches et de monographies qui se sont faites, ce sont un très bon portrait de la situation de l'agriculture et des espaces ruraux en Espagne dans cette année. Il y avait un autre phénomène, ce sont les géographes français qui font des thèses d'État en Espagne qui marquent les modèles et après la construction des géographes des thèses qui sont faits pour les géographes espagnols. A été un transfert des méthodes, des systèmes d'analyse très intéressants pour comprendre tout, parce que dans toutes les régions espagnoles, il y avait des thèses d'État français, et après, il y a les nouveaux départements qui font la thèse en imitation du modèle français. En Galice, c'est Abel Bouillet qui marque la méthode canonique, mais aussi Alain West de Lamps avec les vignobles, Mounier avec les études climatiques, ou Pierre Biro qui a travaillé sur la géomorphologie, et après, il y a tout est développé très clairement à partir de ça. Et aussi pour étudier les logiques des propres pays, parce que jusqu'à les années 70, la plupart des populations espagnoles restent une population rurale. Et même s'il y a une transition très rapide dans les grandes villes, il reste beaucoup d'éléments, beaucoup de logiques rurales ou paysannes dans les nouveaux quartiers. Les personnes retournent en campagne les fins de la semaine ou en vacances, ils conservent les fonciers. Il y avait beaucoup de relations dans les premiers éléments, dans les premiers moments de l'urbanisation accélérée. Et pour étudier les villes, ce sont très classiques les premières études qui sont faites. C'est l'idée des villes ou de la géographie urbaine comme géographie du lieu central. Espace de fer, espace de marché du commerce, c'est un peu cristallin, mais c'est aussi Blanchard et la méthode française qui a resté dans les premières études urbaines. Il y a des différents exemples de cartes sur les monographies régionales qui sont faites, et dans la dernière phase de cette période, un livre un peu emblématique qui sont les paysages ruraux en Espagne, qui c'est un peu la conclusion de toutes les périodes que j'ai expliqué. Et les premiers changements, ce sont la rapide, il y a une transition des sujets de recherche, et il y a une transition qui est un peu forcée, pas pour les logiques internes de la géographie, et surtout pour le rapide développement de l'économie appliée ou de l'économie régionale. Et il y avait beaucoup d'influence des économistes régionales dans les différentes écoles qui font les premières synthèses de l'économie espagnole dans les années 60, dans les années 70, qui vont faire un peu les supports des politiques, des plans de développement, comme les plans quinquennales qui se font pour développer l'économie en Espagne, et qui deviennent très influents. Même s'ils sont critiques avec le régime, ils font les synthèses, les analyses pour faire les pôles de développement et pour faire l'industrialisation, mais ils font de très bonnes synthèses sur les changements économiques, sur les changements des espaces ruraux et des espaces arrières. Et ils deviennent très influents parce que ce sont des nouvelles facultés dans des universités comme Valladolid, comme Santiago, ou comme Séville, ou Valence. Se sont implantés des facs d'économie, mais l'influence des économistes s'est très rapidement répandue chez les géographes, chez les historiens qui voient développer des méthodes pareilles. N'est pas l'entrée comme il y a beaucoup d'études sur l'histoire de la géographie, qu'il y a un changement pour les méthodes des Américains ou des Britanniques. En Espagne, c'est plus un processus antérieur, c'est un transfert des économistes vers les sciences humaines plus classiques. La géographie est aussi l'histoire dans un moment où il y avait beaucoup d'influence. Ce sont les technocrates, et les technocrates ont une forte base de l'économie régionale, une forte base et imitation de François Perrou et de toute la logique de l'économie régionale de ces années qui en Espagne a été très, très importante. Et il y a un changement de modèle. Les rurales, c'est partout, les arrières, c'est partout. Avant, mais en 5 ou 10 années, on les devis, c'est parler pour les rurales dépendants, les rurales comme périphérie d'un nouvel pays qui reste urbain et qui veulent devenir industrialisés, touristifiés, et qui doivent changer, et qui doivent s'intégrer en Europe. Spécifiquement, qui doit s'intégrer en Europe pour son adhésion à la communauté européenne. Il reste comme une obsession, et toutes les études des années 70 et des 80, c'est comme sera l'avenir en Europe. Nous serons en échec de notre agriculture et de notre économie en Europe. Nous pouvons rester compétitifs en Europe. Et c'est le discours permanent qui est développé. Dans ce contexte, il y a l'introduction des méthodes plus analytiques, un peu de la quantification, et c'est intéressant, se sont incorporées, mais en général, sur les études rurales et même sur les études d'autres branches de la géographie, on reste avec les méthodes plus classiques, même dans les années 1980. Pourquoi ? Parce que c'est un outil très intéressant pour étudier sur terrain les changements de l'espace, les changements du territoire. Même avec les économistes ou avec les premiers sociologues universitaires que nous trouvons en Espagne, il y a une véritable influence mutuelle. Ils aiment beaucoup la méthode des études concrètes pour vérifier ou pas les grandes synthèses régionales ou les grandes études de l'économie régionale qu'ils sont développées. Il y a une symbiose intéressante dans des différentes écoles. Il y a même des bonnes relations au plan académique. Il y a des transferts dans des facs différenciées, mais avec une même langue. Et et surtout pour étudier les transformations. Une autre question obsessive dans toutes les études, c'est la compétitivité. Chez les économistes, mais surtout chez les géographes. C'est un autre élément permanent pour étudier les espaces ruraux en Espagne et pour comprendre les logiques rurales. On peut parler que l'agriculture à Murcie ou en Almérie n'est pas durable. C'est vrai, mais c'est compétitif. C'est une réponse permanente des autorités publiques, mais aussi à l'Académie. Il y a l'idée de que c'est un succès historique et qu'il faut changer, qu'il faut chercher la durabilité, mais dans des processus d'adaptation plus tranquilles. Avec l'adaptation avec l'incorporation de l'Espagne aux communautés européennes, il y avait une interprétation en général chez toutes les sciences humaines. L'Espagne a fait une bonne négociation pour l'agriculture méditerranée et une mauvaise négociation pour l'agriculture atlantique. L'Espagne, c'est un pays méditerranéen, les 75% du territoire. Et au cadre européen, l'agriculture méditerranéenne a plus d'espace pour entrer dans les marchés, pour l'olivier, pour quelques productions céréalistiques et pour l'agriculture intensive d'hiver. C'est compétitif, mais c'est très difficile de faire la négociation pour l'aller dans un marché saturé. Pour des différents types de viande, parce qu'il y a des pays qui produisent beaucoup et qui produisent meilleur qu'en Espagne. Et la négociation a déséquilibré un peu plus les conditions naturelles en Espagne, et c'est une idée qui s'est développée. Même si l'agriculture et l'élevage atlantique résistent, parce qu'il a résisté, mais avec des conditions un peu plus difficiles, avec des quotas qui ont provoqué des problèmes. Par exemple, nous en Galice, nous avons étudié, il y avait 20 ans que nous produisons 300 000 tonnes plus de lait que les tonnes officiellement enregistrées. Si vous cherchez, je crois que Maxime a étudié l'enregistrement les statistiques de Galice sortent un plus tard, parce qu'il y a dans la période des quotas, il faudrait comprimer les laits dans les statistiques pour les problèmes des quotas ou disparaître la lait avec des exportations vers le Portugal et les autres. Il y avait un véritable problème, même s'il y a une adaptation ou d'autres éléments dans l'agriculture du nord de l'Espagne. De ces simples appliés, c'est une étude très importante dans la géographie espagnole de Maria Dolores García Ramón, qui c'est la première géographe qui introduit explicitement la quantification, la géographie quantitative rurale en Espagne. C'est un exemple. Elle a abandonné après, mais qui l'a introduit dans un moment. Et un peu les premières cartographies qui ont introduit des éléments, des indices pour faire des atlas ruraux aussi en Barcelone. L'obsession pour l'intégration de la communauté européenne a provoqué, pour moi, c'est une opinion personnelle qui est compartie avec d'autres collègues géographes, économistes et historiens, que les communautés européennes ont introduit beaucoup, trop, à notre avis, l'agenda des sujets de recherche sur des questions rurales. Il y avait des discours, pas pour étudier comme dans toute la tradition, des transformations rurales, des espaces ruraux, des logiques de la vie paysanne, et il y avait un peu une éclosion des recherches liées au programme européen. A été bien pour ouvrir des nouveaux sujets, mais il y a été, à notre avis, c'est une pauvreté de la recherche. Et même dans quelques endroits, dans quelques départements, que nous trouvons une répétition assez forte de ces questions de recherche qui sont intéressantes, mais limitées, et qui sont devenues, dans les années surtout 90 et dans les débuts des 20 des présents siècles qui sont devenus un peu très répétitifs et même avec un discours qui accepte les directrices de Bruxelles dans les premiers moments. Après, il y a des lectures de plus en plus critiques. La première marque qui est achetée pour les géographes et pour les scientifiques sociaux ruraux en Espagne, le développement local et rural. C'est bien le développement rural, le développement local et le développement endogène. Mais il y avait trop d'études qui font seulement une comptabilisation du plan leader des projets européens, des projets de développement rural, sans aucune perspective critique dans les premiers programmes que nous avons. Il y avait une prolifération. Si nous cherchons dans tous les actes de la réunion des groupes de géographie rurale, de l'association de géographie espagnole, il y a une prolifération très très forte de ces sujets, avec une majorité de travail sans un spécifique intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il y a des logiques à partir des politiques publiques, mais les résultats des politiques publiques se sont inégaux en général, parce que le rural en Espagne reste un processus de dépeuplement. Les activités alternatives à l'agriculture marchent, mais ils marchent avec quelques problèmes. Et il y avait une consommation des budgets publics très forte pour des résultats un peu magres dans cette période. Où il y avait des décisions comme la modernisation, une autre fois la modernisation des routes, qui ne sont pas nécessaires dans beaucoup d'espaces en Espagne ou en Portugal, dans les espaces ibériques. Et c'était un problème. Dans les dernières années, il y a un changement de perspective. Il y a des analyses qui font des analyses dans la moyenne durée et qui permet de voir les premiers leaders, les deuxièmes, les troisièmes, et qui font des analyses plus précises sur ces sujets. Et les sujets restent, mais restent de plus en plus dans son véritable importance. C'est peut-être un peu le complexe des nouveaux membres des commissions européennes avec beaucoup d'argent qui font beaucoup trop de recherches sur ça. La seconde question, c'est la diversification de l'économie rurale. C'est une autre marque de l'Union européenne et surtout beaucoup d'études sur le tourisme rural. Mais le tourisme rural marche très bien pour récupérer le patrimoine, mais pas pour récupérer les espaces ruraux. Et même beaucoup d'études plus récentes sur le tourisme rural montrent que c'est intéressant comme activité économique, mais qu'il n'y a pas une véritable liaison avec le reste des activités de la même commune ou de la même contrée. C'est une autre logique. Et en Espagne, avec l'exception peut-être de la Navarre ou avec l'exception de la Catalogne, l'agrotourisme reste très très limité. C'est bien pour maintenir les patrimoines, mais pas pour l'autre. Il y avait d'autres questions qui sont intéressantes et qui sont développées de plus en plus dans les dernières années. Toutes les questions des néo-rurales, des périurbanisation, du rural à partir des rares de l'urbain, on permet de faire beaucoup d'études et beaucoup d'études intéressantes, parce qu'il y a des espaces très complexes qui sont très intéressants pour donner d'informations sur les logiques des territoires à partir d'une perspective rurale. Je pense par exemple à la Catalogne, avec un poids très fort du tourisme, avec une urbanisation industrialisation très forte, mais avec une résistance des espaces ruraux très intéressante. C'est une question très intéressante. C'est la même chose à Alicante ou à la Murcie, avec un poids du tourisme très fort, mais avec une agriculture très forte aussi, ou dans des secteurs d'Andalousie, ou à côté de Bilbao, ou de Madrid, ou des villes espagnoles, où il y a des logiques très intéressantes pour étudier, des logiques de résistance de l'agriculture, des espaces ruraux dans cet espace, et de plus en plus, ça devient très intéressant. Il devient plus intéressant parce que il y a des logiques rurales, mais il y a un dialogue intéressant avec les géographes urbains. Il y a un dialogue intéressant, nous parlons avant, avec des approches environnementales. Parce que ce sont des terroirs fragiles. Il y a des questions. En Espagne, il y a le problème de l'eau par la plupart des territoires. Et il reste des études très, très intéressantes pour ces possibilités d'intégration. Et dans les dernières périodes, la récupération de l'agriculture au cœur des études rurales. Et au sein de Simène, maintenant, il y a un gros débat. Le rural peut s'interpréter comme pas agricole, ou seulement le rural peut se maintenir à partir de l'agriculture ou à partir des logiques. Chez les économistes, sociologues et géographes, c'est la question centrale pour comprendre la recherche rurale et pour comprendre comme l'académie, comme l'université peuvent influencer les politiques publiques pour comprendre les espaces ruraux, l'aménagement rural. Et de plus en plus, il y a une récupération. L'abandon de l'agricole, le rural doit être pas agricole, les années 90, développement local, tourisme rural, des petites entreprises, des artisans au rural, et à partir de 2000-2005, et accéléré à partir de la forte crise économique, il y a une récupération du discours « l'agricole, c'est la clé du rural », il peut avoir de la diversification économique, mais il faut trouver un modèle territorial sur une base agricole, et à partir de ça, on peut faire l'aménagement rural et on peut faire la récupération des espaces ruraux. C'est un peu la question. Et nous avons changé d'optique. L'optique, il avait un sens, c'est ça, des politiques qui parlent et qui s'est bien avancé la population active agricole à moins de 100%. Maintenant, il n'y a aucune qui parle de ça. Il parle de campagnes vivantes, il parle des possibilités de vivre dans les campagnes. Il y a un changement aussi en Espagne. Et d'autres lectures qui se sont développées, des exemples de tourisme rural, c'est comme partout, des exemples, la carte de la Galice du tourisme rural qui se maintient. Maintenant, il y avait beaucoup d'argent pour maintenir, et c'est ça. Et des politiques publiques de promotion du tourisme rural ou du tourisme en général, dans les côtés divertes, de l'idée de la pause dans le tourisme. Dans ce contexte, je voudrais parler des réalités un peu différentes. Il y avait des logiques un peu contradictoires dans la lecture des espaces ruraux en Espagne. La première, le maintien de la logique modernisatrice, de la logique productiviste, pas pour les grandes théories sur la géographie agricole ou la géographie rurale ou l'économie agricole ou l'économie rurale, mais avec beaucoup de représentativité dans les recherches. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples d'agriculture, surtout à la Méditerranée, où le productivisme, c'est la clé pour comprendre la géographie de beaucoup des espaces. Même si la plupart des géographes se sont critiques avec les modèles, mais pour faire la géographie arrière à l'Andalousie orientale, ou à Huelva, ou à La Rioja, ou à Murcie, Valence, il faut travailler sur le productivisme et il faut se spécialiser beaucoup parce que c'est une agriculture très très unifiée Il faut comprendre toutes les logiques de consommation d'eau. Il faut faire beaucoup de tests pour comprendre l'irrigation au présent et des modèles mathématiques pour comprendre l'utilisation de l'eau et pour comprendre les systèmes, je crois, plus intérêts de l'agriculture dans des systèmes européens ou même globalisés du secteur ou du cluster agroalimentaire ou de agrobusiness. Et même pour comprendre un autre élément de plus en plus important pour la géographie économique en Espagne. Nous sommes la périphérie sud de l'Europe, mais nous sommes très près du nord de l'Afrique. Il y a beaucoup de processus de vente en hiver de produits en Europe, mais il y a beaucoup de processus de délocalisation à l'agriculture aussi. Je suis galicien à la pêche. Au Maroc et aux pays du nord de l'Europe. Peut-être les tomates, qui sont les mêmes compagnies qui produisent les tomates au Maroc dans une qualité et en Espagne dans une autre qualité et une autre partie de l'Espagne comme bio. C'est possible de trouver ces compagnies et il faut l'étudier parce que c'est très intéressant de comprendre les logiques à l'actualité. Et surtout parce qu'il faut comprendre comme des espaces ruraux pauvres se sont devenus les paradigmes des succès productivistes en Espagne. Les déserts en Espagne, les déserts plus clairs, c'est Almeria, c'est le paradigme du désert. Il pleut à Cap de Gata 120 mm par an. Et c'est devenu l'espace plus productif de l'agriculture intensive en Espagne, et je crois. De plus important de l'Europe maintenant. Il faut comprendre, c'est ça. Il y a beaucoup de recherches qui doivent expliquer, c'est ça. Ou à Murcie, ou à Huelva, sur un pôle pétrochimie, s'est développé à côté des pôles pétrochimie la production de framboises, la production de chéri et la production de fruits rouges en hiver. Et c'est très intéressant de comprendre, c'est ça. Et en Espagne, tous les départements de géographie de l'Andalousie orientale, de l'Andalousie occidentale, les collègues de Murcie et de Valence ont beaucoup de recherches parce qu'il y a une réalité étonnante dans les nouvelles productivismes, même s'ils sont pour la nouvelle culture du territoire, c'est le manifeste des géographes espagnols de 2006, et s'ils sont pour la nouvelle culture de l'eau. C'est notre manifeste qui ont participé pour avoir des systèmes plus durables. Et surtout, l'artificialisation du sol, c'est très important d'étudier et récupérer un peu la relation avec les géophysiques et avec les pédologues pour comprendre comment il y a une humanisation complète d'artificialisation du sol dans ce contexte. Et surtout, les saisons où se produit. C'est l'agriculture d'hiver, c'est pas la climatique. C'est parfaitement contrôler quels sont les mois pour produire, pour faire une production ou pour faire une autre production. Et c'est tout réglé en relation avec les marchés européens. Par exemple, j'étais à Murcie la semaine passée et les campagnes sont pleines de personnes en travaillant. Parce que nous sommes dans les périodes clés de l'agriculture du Sud. Entre novembre et février. À partir de ça, ce sont d'autres produits pour le marché espagnol. En Europe, le nord de l'Europe peut produire des fruits, peut produire des légumes, il n'y a pas marché. Mais dans l'hiver, c'est un peu la clé. Et il y a une autre question très importante pour la géographie sociale, c'est l'étude des acteurs et des réseaux de production. À l'agriculture intensive, comme aussi à la pêche, et il y a des jeux très, très intéressants pour étudier chez les géographes, mais aussi avec les sociologues et les anthropologues, parce qu'ils sont des véritables paysans des années 60, ou même des migrants des déserts de montagne qui ont obtenu une concession ou qui font des occupations illégales, même à Huelva, et qui sont devenus des grands capitalistes agriculteurs pour des processus innovantes, accumulées et pour des logiques de marché très accélérées en 30 ou 40 ans. Et c'est très intéressant les études qui font des acteurs du processus. C'est difficile avec la première génération de ces acteurs comprendre, modifier avec un objectif de paradigme de durabilité, changer la production, mais ce sont très importants les travaux avec la deuxième génération, la troisième, qui veulent adapter d'autres modèles de production. Une autre question clé pour la géographie espagnole, c'est la question de l'eau. La question de l'eau, c'est une question de géographie agraire, rurale, mais j'ai dit que c'est plus une question de géographie politique. Le gouvernement en Espagne a présenté la question de l'eau comme une question de géographie politique et a devenu dans une guerre entre régions. Et s'il y a une vision unitaire d'Espagne, l'eau des fleuves espagnols, c'est pour répartir, pour distribuer pour toutes les régions. Et c'est normal que, par tradition, l'eau excédentaire de l'Ebro ou de Tajo se transfère vers la Murcie et vers l'Alicante, qui ont une agriculture très intensive, qui a des demandes permanentes et permanentement croissantes de l'eau. Mais s'il y a une logique des communautés autonomes, la question c'est l'eau des Catalans, l'eau des gens de Castille-La Manche, l'eau des Aragonais, c'est volé pour les gens de Levant. Et s'il y a des différences de gouvernement autonome, la droite ou la gauche dans les différentes régions, c'est la guerre complète. Et nous savons de différents moments de la guerre de l'eau, très fortes, qui ont provoqué une radicalisation des positions pour le productivisme en Murcie et en Valence, et qui ont provoqué une intensification aussi des produits pas avec bon marché dans des régions qui n'ont pas fait l'intensification comme l'Aragon ou comme le sud de la Catalogne dans les dernières années. Et a été une question un peu obsessive. Au présent, il marche un peu plus mieux parce que la solution a été limiter les transférences d'eau et faire la désalation de l'eau de la mer. Comme c'est plus cher la désalation, les agriculteurs productivistes ont amélioré techniquement la consommation de l'eau pour la production et a devenu plus raisonnable les cadres. Mais c'était un problème très fort. Il y a des livres, beaucoup de livres, et il y a des positions très confrontées entre les géographes espagnols, entre les scientifiques humains, d'un parti et d'autres pour indiquer des positions différentes. Il y a beaucoup de littérature, s'il y a des personnes qui ont l'intérêt, je peux montrer les différents auteurs. Et il y avait une autre logique pour l'agriculture méditerranéenne ou pour l'agriculture majoritaire en Espagne, qui est développée dans d'autres logiques. C'est un peu productiviste, mais avec les rotules écologistes ou extensifiés. Et ce sont des succès. Les premières, c'est l'olivier. Et l'olivier a beaucoup de subventions aux oléagineuses de l'Union européenne. Et il y a une extension de l'olivier dans tout le sud de l'Espagne étonnante. Il y a un bon marché, il y a un prestige que l'huile d'olive, c'est la santé, etc. Mais il y a une expansion très forte, avec beaucoup de propriétaires absentistes, avec une monoculture. Il y a des problèmes écologiques, mais c'est le succès complet maintenant. Et l'autre logique, c'est plus culturel, c'est la création de nouvelles régions de vins partout. C'est la culture de la gastronomie, la culture du bon vivre, qui a développé de nouveaux appellations contrôlées. L'Espagne a de bonnes conditions climatiques pour produire le vin. Il y a vin partout, comme en France, mais une part très, très, très récente. C'est le cadre un peu des études. Il y a beaucoup d'études sur le succès de l'agriculture espagnole en relation avec c'est ça. Il y a beaucoup d'études aussi sur l'appellation contrôlée et sur l'indication géographique. C'est un classique aussi à la géographie rurale et à la géographie agricole du présent en Espagne. Il y a des exemples sous plastique à l'Andalousie. Ce sont les paysages de El Ejido en Almeria, d'une collègue de Séville, et l'intérieur. C'est complètement technifié la production de piments, de piment, de tomates, d'avocats ou d'autres. Et c'est la carte plus récente de production de l'horticulture en Espagne. C'est moins précipitation, plus de production au sud-ouest et les secteurs plus touchés pour cette spécialisation. Et toutes les canalisations des fleuves dans les levants espagnols à partir des transferts de l'eau. Mais il y a d'autres logiques, je crois, qui est très pareil qu'en France, que c'est les nouveaux scénarios des espaces ruraux et de plus en plus une question relevante pour les études des ruralistes en Espagne et pour les études des géographes ruraux ou des géographes en général en Espagne. J'ai fait 5 options pour montrer quelles sont les branches plus importantes d'études sur des espaces ruraux dans la géographie espagnole en général. La première a été, c'est normal, c'est pas la géographie rurale, mais c'est normal, l'importance de l'urbanisation des campagnes dans la période de la bulle immobilière. Nous avons construit partout. Il y a des scénarios de destruction des espaces ruraux très fortes. Il y avait des recherches sur ça. Pas la géographie rurale, c'est la géographie rurale, la géographie urbaine ou la géographie régionale, mais il y a beaucoup d'études parce que la croissance des espaces urbains en Espagne dans les années 90, dans les premières décennies du présent siècle, a été étonnante pour les Corines. C'est un changement complet et il y a une cartographie de la destruction des espaces agricoles, des espaces ruraux. La seconde question, de plus en plus importante, ce sont des collègues de Séville et de Barcelone qui étudient. C'est une mot que je n'aime spécifiquement, que c'est la naturvanisation, c'est en anglais. C'est un peu tous les études sur les espaces naturels protégés ou sur la considération de la nature, mais avec un regard urbain. Les rurales restent comme les rurales périphériques ou les rurales montagnards ou les rurales avec des protections restent comme un espace pour regarder. C'est le paysage pour les souvenirs les vendredis, les samedis et les dimanches. Il y a beaucoup d'études sur cette regard dans la géographie espagnole. De plus en plus, il y a d'autres logiques plus récentes pour étudier, c'est ça, surtout à la Catalogne, aussi au Pays Basque, parce que ce sont les régions espagnoles, et à Madrid, et plus avancées pour développer des nouvelles modèles agricoles post-productivistes et des nouvelles logiques de récupérer l'agriculture ou de récupérer la nouvelle vie paysanne avec des nouvelles modèles plus lié au territoire, surtout, et plus bio au présent. C'est un peu l'idée de la vie en campagne pour vivre bien, et tous les références sur la récupération des études du mode de vie des habitants du présent dans les campagnes, avec une approche très influencée pour la géographie sociale et la géographie culturelle aussi. L'introduction des études de décroissance et du paradigme de décroissance est très forte dans les approches théoriques des sciences humaines à l'université à Barcelone. C'est très lié aussi maintenant aux des jeunes académiques qui sont liés à la nouvelle politique en Espagne, qui font beaucoup de approches. Tous les indignés sont liés dans les cadres ruraux, dans cette étude. Il y a beaucoup de production des jeunes géographes ruralistes, des jeunes sociologues ruralistes, etc. Il y a même dans les parlements des géographes ou des sociologues, dans les groupes plus alternatifs, dans les candidatures d'unité populaire à la Catalogne, des géographes qui ont fait des études sur la décroissance ou sur comment conserver les paysages ou les modes de vie paysans. C'est intéressant chercher dans les liaisons des acteurs concrets des jeunes avec des nouveaux. Et est aussi l'étude sur la résistance de l'agriculture dans des espaces conflictuels. C'est une question très importante en Catalogne. En Catalogne, il y avait un annuaire qui est développé pour les géographes qui s'appelle Ici, non. C'est tout le mouvement de résistance territoriale contre les autoroutes, contre les plantes industrielles et tous les mouvements paysans ou des communautés pour maintenir il y a une cartographie. Et ce sont des nouvelles questions en géographie en Espagne. C'est la ville immobilière à partir des images de la huerta de Alicante qui est détruit par la construction seulement comme paysage. Mais il y a l'autre logique, l'internet, la traçabilité pour vendre, c'est en catalan et c'est pour produits éco, pour avoir des différents produits. C'est la résistance des espaces protégés et qualifiés comme protégés près de la ville de Barcelone et d'autres villes, et pour produits divins parfaitement identifiés avec des références. C'est l'idée de préserver des vieilles cultures méditerranéennes en déclin, mais qui sont très bien adaptées aux moyens. Et c'est un peu les conflits permanents, et surtout ce sont des photographies des collègues de la Catalogne entre la campagne et l'expansion des villes. C'est comme partout la production de pain et les mouvements, par exemple, des agriculteurs contre des grands développements des loisirs, des grands casinos. C'est l'exemple près de Madrid, c'est pas construit, c'est une victoire, mais ce sont les mouvements. Et seulement des minutes, parce que j'ai parlé beaucoup, et pour cinq idées pour la relation de la géographie rurale espagnole et autres sciences sociales. L'énorme poids de la vision historique historiciste en général, c'est une tradition que nous avons conservée très bien, et même pour les nouvelles recherches, c'est très important l'utilisation du patrimoine de la mémoire par introduire des logiques. La plupart des départements de géographie en Espagne, ce sont dans des facs, dans des UFR avec les historiens. Il y a une relation intense avec les historiens et ils restent très, très liés. C'est pas... Et l'histoire contemporaine en Espagne, c'est très, très influent. Et au plan même public, il y a beaucoup de relations. Surtout, nous avons parlé au repas de la Société espagnole d'histoire arrière, qu'il y a beaucoup de relations et d'influence, et aussi de l'histoire sociale, de la revue d'histoire sociale et des historiens sociaux qui ont beaucoup de relations avec les géographes. Aussi en Espagne, il y a beaucoup de relations avec les économistes, parce qu'il y a une véritable branche, je ne sais pas, je crois qu'en France c'est la même chose, avec l'économiste régional et l'économiste arrière, qui sont de plus en plus dehors de l'économie plus classique, plus numérique, et qui sont plus proches aux sciences sociales, mais qui restent puissants dans tous les facs d'économie en Espagne. Et qu'il y a un dialogue très, très important et qui même travaille beaucoup avec les géographes. Et c'est les deuxièmes influences. Première, ce sont les historiens, et depuis, ce sont les économistes arrière avec beaucoup de... Et en Espagne, c'est plus faible qu'en France la sociologie et l'anthropologie, parce que jusqu'à l'année 80-70, il n'y avait pas d'études officielles de sociologie en Espagne. Ils sont dans un campus de l'Université de Madrid, dehors de la ville, parce qu'il y a un risque, ils sont isolés dans le reste de l'Université Complutense. Et c'est très récent la sociologie. Et l'anthropologie, c'est faible par comparaison, par exemple, avec le Portugal. Le Portugal, il y a une anthropologie très forte pour des questions coloniales, mais en Espagne, c'est reste faible, mais ils sont très, très développés dans des périodes plus récentes. Et il y a beaucoup de dialogues avec les sociologues ruraux. Il n'y a pas... c'est difficile, dans quelque endroit, faire la différence entre les sociologues et les géographes ruraux maintenant. Et avec les anthropologues, les relations sont très bonnes parce que nous avons trouvé que les méthodes qualitatives, la récupération des conversations, d'études sur le terrain, les anthropologues permettent de faire des très bonnes approches dans différents espaces. Et c'est un peu que je voudrais présenter, un peu comme panorama général, s'il y a des questions concrètes sur la géographie rurale en Espagne et les récentes tendances, qui sont très influencées maintenant pour l'idée des Français, pour la pensée française, même s'il y a une évolution des thématiques. Merci.